France Culture.
Et je vous présente les critiques de ce mardi. Marie Sorbier, productrice du Point Culture sur France Culture et rédactrice en chef de IO.
Bonjour Marie.
Céline Duchesnay, autrice et productrice à France Culture.
Bonjour Marie.
Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Scènes endormies dans la paume de la main, c'est le si beau titre du premier recueil de nouvelles dont nous parlons aujourd'hui. On le doit à l'autrice japonaise Yoko Ogawa, écrivaine prolifique, désormais mondialement connue, qui depuis ses débuts aime alterner formes courtes et romans. Ici, elle nous livre 8 nouvelles qui ont tout un rapport, même ténu, avec le spectacle vivant. On y retrouve l'écriture resserrée et délicate d'Ogawa, son goût pour l'étrange qui flotte tout au long de ses pages et la force des émotions. On commence par Un avis rapide, Céline Duchesnay.
Eh bien, moi j'ai beaucoup aimé, c'est vrai que je suis tout à fait fan par ailleurs de cette autrice. J'ai toujours grand plaisir à retrouver une écriture qui est vraiment très subtile et je dirais un climat. Cette étrangeté, cette porosité entre la réalité et le rêve, et surtout le bizarre qui est toujours présenté de manière normale. C'est qu'on est dans une scène à peu près normale et tout à coup, il y a quelque chose qui surgit qui vous montre que vous n'êtes pas tout à fait dans la réalité ou alors que peut-être vous êtes justement dans un livre d'Ogawa. Et pour moi, je dirais que ce qui peut caractériser l'ensemble de ces nouvelles, c'est évidemment le lien au théâtre, on va y revenir, mais c'est surtout, ce sont des nouvelles où les personnages qui sont extrêmement solitaires, qui ont peu d'amis, qui vivent de manière repliée, essayent de donner un sens à leur vie. Et je trouve que l'obsession est une des réponses qui est donnée à chaque personnage. Comment chaque personnage s'engouffre dans une forme de petite lubie qui lui permet peut-être de donner un sens à son existence.
Marie Sorbier ?
Oui, j'ai beaucoup aimé aussi ce recueil de nouvelles. J'ai été prise et enveloppée, vous parliez de climat, Céline, moi j'employais ce mot d'atmosphère, on est vraiment enveloppé dans quelque chose, dans une brume, c'est pas très clair ce qui se passe et c'est ça qui est beau, comme cette brume japonaise, vous savez, qui se dépose un peu, on voit tout à travers des nuages, c'est exactement ça la sensation et je trouve que l'autrice a un talent très particulier pour tisser les nouvelles entre elles. Alors elles n'ont pas de lien, effectivement les histoires ne se relient pas, les personnages ne se connaissent pas, c'est vraiment des 8 nouvelles à part, pourtant il y a des traverses souterraines et moi, c'est ça qui m'a vraiment plu. Plus j'avançais dans le livre, plus je voyais ses obsessions, son souci du détail, sa façon de décrire les gens qui sont plutôt des petites gens, ce ne sont pas des gens avec des histoires extraordinaires. Et ce rapport au théâtre, bien sûr, vous en doutez, qui moi m'a beaucoup touchée. Surtout que je trouve qu'elle parvient à faire quelque chose d'étonnant, c'est qu'elle parle du spectacle vivant dans des nouvelles qui sont vraiment anti-spectaculaires totalement. Et ce rapport-là, cette tension-là, fonctionne très bien.
On va continuer à en discuter, mais d'abord on écoute un extrait de Scène endormie dans la paume de la main. Il est lu par Oriane Delacroix.
La petite fille pose une boîte à l'envers sur le sol parsemée de limailles et de taches d'huile. Une boîte en bois, juste de la bonne dimension pour tenir dans ses bras, qui a dû servir autrefois à ranger des outils. Son bois noirci est vermoulu, ses coins sont devenus ronds, mais la petite la manipule doucement. Elle a décidé de sa place avec le plus grand soin, en tournant plusieurs fois les yeux vers le ciel. La lumière est ce qui compte le plus. Elle s'est assurée de l'orientation du soleil et de la clarté qui vient des fenêtres de l'usine, à chercher l'angle idéal où l'installer en l'enfonçant légèrement dans le socle de terre qu'elle a préparé, afin de garantir que la boîte ne penche pas et ne risque pas de se renverser. Elle en essuie ensuite le fond, qui est maintenant le dessus, avec le bas de sa jupe à bretelles. La salière lui est indifférente, comme l'est la teinte rougeâtre qu'ont prise ses genoux à cause de la limaille.
Scènes endormies dans la paume de la main de Yoko Ogawa. On l'a entendu, la Céline Duchesnay, l'attention portée aux petits détails, tout simple.
Toujours, et aux objets aussi. Les objets ont toujours une très grande importance dans tous les livres de Yoko Ogawa. Et là, on entend la douceur du regard sur cette petite fille, une petite fille qui a perdu sa mère. Les morts sont toujours aussi très présents dans ces livres. Alors, parfois, ils flottent tels des fantômes. Parfois, c'est leur absence qui se fait cruellement sentir. Et puis, avec cette absence, peuvent se créer aussi d'autres liens. Et notamment, je dirais que cette nouvelle est particulièrement intéressante parce parce que cette petite fille va pour la première fois de sa vie dans un théâtre. Là, elle va voir un ballet et elle tombe littéralement en amour avec le personnage, la danseuse principale, et elle décide de lui écrire. Donc, il y a une correspondance, la petite fille écrit à ce personnage qui est un personnage de fiction, et il y a une tierce personne qui intervient, qui est une dame adulte, qui elle aussi vit un petit peu repliée sur elle-même et qui observe en permanence cet enfant et qui va essayer de donner des réponses finalement à cet enfant. Donc c'est toujours assez difficile finalement de raconter ces nouvelles. C'est comme une fenêtre qu'on ouvre tout à coup sur un monde avec cette autrice qui a des yeux extraordinaires, qui est capable de décrire le moindre détail, et puis tout à coup la fenêtre se referme et on se dit tiens, quelle est la morale de l'histoire, il n'y en a jamais, qu'est-ce qui va se passer après, on ne sait pas. C'est vraiment cette impression de brume. Marie, vous aviez raison de parler de ce terme-là pour décrire ces nouvelles-là, parce que on est caressé, je trouve, à la lecture de ces livres, parce que il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la sensibilité, de l'émotion et du toucher, je trouve, chez cette autrice. Oui,
c'est joliment dit ça, Marie Servier.
Oui, je suis d'accord, il y a un univers complètement synesthésique, c'est-à-dire que on sent, il y a de l'odorat, il y a du toucher, il y a de la vue, et c'est pour ça qu'on peut parler d'atmosphère, et c'est une écriture finalement assez immersive, alors pas au sens contemporain du terme, mais vraiment, on rentre dans ces histoires. Il faut dire que l'autrice déploie ces nouvelles. Ce ne sont pas des nouvelles très courtes, elles sont plutôt longues pour la plupart, c'est presque des petits romans parfois, et elle parvient, je trouve, avec un art très particulier, à nous mettre dans un temps et dans un espace avec peu de mots. C'est-à-dire, on l'a entendu, là, les phrases sont assez simples. On n'est pas dans des choses alambiquées, on n'est pas dans des tournures de phrases compliquées. On est dans une description, finalement, de personnages. Parfois, ils disent « je », parfois, c'est à la troisième personne. Mais on entre, dès les trois premières lignes, dans ce qui va être l'histoire à suivre. Et en effet, l'étrangeté, on ne sait jamais quand elle arrive. On la ressent un tout petit peu, on sent qu'il y a des petits décalages qui se font au fur et à mesure, il y a des failles, et évidemment à un moment donné, soit elle arrive très vite dans la nouvelle, soit elle arrive carrément à la fin, on ne sait pas, mais il y a toujours une étrangeté très...
Mais l'étrangeté c'est quoi? C'est du fantastique?
Ça peut, ou alors par exemple il y a une nouvelle très particulière, je trouve, dans les 8, c'est une dame qui a mal aux dents, elle vient de se faire poser un bridge, vous savez, sur sa molaire, et il se trouve que ça la gêne, et donc elle n'arrête pas avec sa langue de toucher ce bridge, enfin elle va voir tous les dentistes possibles et imaginables en lui disant un truc qui va pas, ça me fait mal. Alors après, elle a très mal au dos, au cou. Enfin bon, c'est vraiment la description de la douleur de cette femme qui arrive même plus à travailler tellement elle a mal. Et personne ne voit le problème. Tout le monde lui dit que non, ses dents vont très bien, qu'elle a été bien soignée et qu'il faut qu'elle s'habitue. Et finalement, donc là, bon, voilà, on est dans une nouvelle plutôt sur la douleur et la solitude de cette femme. Sauf que l'étrangeté arrive à peu près à la moitié du texte où elle se regarde dans un miroir, elle regarde sa dent dans le miroir et en sort un espèce de petit ver blanc, enfin une créature vivante, on sait pas trop ce que c'est. Blanc qu'elle arrive à prendre avec ses doigts et à sortir de sa dent. Et elle va les collectionner parce qu'évidemment, il y en a plusieurs qui vont sortir au fur et à mesure de la nouvelle et elle les met sous des verres. Enfin, elle les regarde, elle les étudie et elle finit par les amener devant les médecins en disant « Mais regardez, c'est ça qui sort de mes dents. » Et tout ça a l'air très normal. C'est-à-dire que les gens à qui elle parle de ces créatures qui sortent de ses dents, bon, voilà, on ne sait pas trop ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils la prennent pour une folle ou est-ce qu'ils sentent normal? Tout ça n'est pas traité. Mais donc voilà, l'étrangeté est arrivée alors que les 10 ou 15 premières pages étaient plutôt sur la douleur et la non-compréhension médicale. Et ça, c'est assez beau. Je trouve qu'elle le fait d'une façon, en effet, très délicate. Le mot qui correspond le mieux, je trouve, à ce recueil de nouvelles, c'est vraiment la délicatesse et l'élégance. Il y a beaucoup d'élégance alors qu'elle parle de sujets difficiles. On parle beaucoup de morts, on parle de gens qui sont très seuls aussi. La solitude est très pesante. Et pourtant, il y a toujours une délicatesse et dans les phrases, et dans les mots, et dans la façon dont elle décrit les gens. Moi, j'ai l'impression qu'elle aime ces personnages, alors qu'ils vivent des situations qui ne sont pas toujours très enviables.
Céline Duchesne, vous disiez que vous étiez fan.
Faisait longtemps que je n'en avais pas lu, voilà. Parce que voilà, la vie fait qu'on lit aussi beaucoup d'autres choses. Et oui, c'était intéressant de la retrouver après, je crois, quand même une ou deux décennies. Et alors, ce qui m'a frappée, c'est que la cruauté était beaucoup moins présente qu'avant. Parce que dans les premiers, en tout cas les livres que moi j'avais lus, je dirais, qui doit dater à peu près des années 2000 dans leur date de parution en France, il y avait toujours des personnages qui pouvaient être un peu sadiques, un peu cruels, ou alors qui avaient un rapport au corps tout à fait étonnant. J'ai le souvenir, par exemple, d'un taxidermiste qui pouvait empailler des rainures d'ongles, des champignons microscopiques, qui pouvait aussi empailler le doigt d'une personne qui était amputée. Enfin, c'est parfois un peu un peu glauque, où j'ai le souvenir aussi d'une femme qui s'était pris d'une sorte de passion pour le cœur d'une autre femme, et c'était un cœur qui était greffé à l'extérieur de son corps et qui a décidé de le couper pour le lui voler, le mettre dans un sac. Donc on était quand même dans des ambiances qui étaient...
C'est moins délicat que ce que dit Marie là.
Si ce n'est que c'était raconté avec cette même délicatesse et ce même regard assez doux. Mais moi je trouve qu'elle a gagné en douceur et que là, ces personnages sont peut-être un petit peu moins foutraques. Ils sont peut-être... Mais ils restent toujours totalement obsessionnels parce que Marie racontait l'histoire de cette dame qui va collectionner les petits verres blancs qui sortent de son bridge. Mais on pourrait aussi raconter une dame qui, par exemple, qui fait un tricot. Et son tricot, c'est une maille par jour. Donc autant vous dire qu'avant que ça devienne un gant, je crois que l'objectif est que ça devienne un gant, il va se passer quand même un certain nombre d'années, mais on a l'impression que ces gens-là, finalement, tiennent parce qu'ils se sont donné des objectifs là où la communication avec les autres ne marchait pas. Donc ils se sont créés un monde intérieur, et grâce à Yoko Ogawa, on peut rentrer dans le monde de ces gens-là et y trouver, en effet, très souvent, une forme de bizarrerie, et puis toujours avec l'écho, on a parlé du théâtre au début, ça se passe aussi dans des lieux qui sont... Ça ne se passe pas toujours au théâtre, mais je sais que Marie a envie d'en parler. Je le vois, ses yeux qui brillent. Mais il y a aussi, moi par exemple, il y a une nouvelle que j'ai adorée, c'est celle qui se passe essentiellement dans les coulisses du théâtre avec une dame qui vit même dans le théâtre. Donc, mais je laisse les yeux brillants de Marie prendre le relais.
Le spectacle plus largement d'ailleurs.
Oui, cette nouvelle dont elle parle, c'est une nouvelle qui part très drôle parce qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps à Paris, c'est le fameux spectacle Les Misérables. Mmh. On en a parlé ici même il y a quelques semaines. Eh bien, le spectacle passe au Japon, là où est notre narratrice de cette histoire, et elle décide, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, un espèce de coup de tête, d'acheter un ticket pour toutes les représentations. Donc elle achète 79 tickets pour aller voir Les Misérables 79 fois, et quand ça joue en matinée, elle y va à 15h et à 19h. Voilà, c'est son plan pour les deux mois à venir, elle fait ça. Et il se trouve qu'elle rencontre dans le théâtre une dame qui vit dans les coulisses du théâtre et dont le métier est de faire les erreurs à la place des artistes sur scène pour qu'eux ne les fassent pas. Donc ils ne vont pas tomber, ils ne vont pas perdre un accessoire parce que cette femme fait les erreurs pour eux. Donc il y a plein d'idées comme ça, très poétique sur le théâtre, mais ce qui m'a particulièrement plu, c'est que l'autrice prend la culture de biais. C'est-à-dire, c'est jamais une culture élitiste qui est proposée. Même quand on parle d'opéra, ou quand on parle de musique, ou même de Tennessee Williams, il y a toute une nouvelle sur la ménagerie de verre. En fait, ces personnages aiment la culture pour tous les à côté. Par exemple, il y a une nouvelle où une femme va tous les soirs à la sortie de l'opéra, mais elle va jamais voir les opéras. Ce qu'elle veut, c'est un autographe des chanteurs d'opéra. Tout ça parce qu'un jour, elle a vu des gens attendre et elle les a vus signer, puis elle s'est dit, tiens, c'est marrant. Et donc, elle va passer sa vie à aller tous les soirs quelque part sans jamais avoir vu aucune pièce, juste pour avoir ces autographes qui sont pour elle beaucoup plus riches et signifiants que si elle était dans la salle en train de suivre l'opéra en question. Même chose avec Tennessee Williams, c'est assez beau. C'est une étudiante qui va chez sa vieille tante qu'elle connaît très mal, dont tout le monde lui a dit c'est une ancienne actrice. Et en fait, cette ancienne actrice qui tricote, hein, je crois que c'est elle qui
fait le fameux gant.
Voilà. Et elle a joué dans sa jeunesse la ménagerie de verre. Et donc, pour se rappeler de ses jeunesses, elle a gravé, enfin écrit sur chaque pièce de vaisselle, donc sur les verres, les assiettes, les bols, une phrase, une citation de la ménagerie de verre. Et donc, toute la nouvelle, c'est cette étudiante qui, une fois qu'elle a fini sa soupe, lit une citation de la ménagerie de verre. Elle a un examen juste après. L'examinateur lui demande quel est votre livre préféré. Elle répond La Ménagerie de verre, alors même qu'elle non plus ne l'a jamais lu. Elle a juste lu les quelques citations qui étaient sur les objets. Et ça, je trouve ça très caractéristique. C'est-à-dire que elle parle de la culture par rapport aux émotions que ça génère. Et en fait, l'émotion, elle n'est pas forcément sur l'œuvre en elle-même, mais sur tout ce qui fait la culture, c'est-à-dire les acteurs, les textes, les petits bouts, finalement, une citation d'un chef-d'œuvre, c'est aussi
passés,
fort que... voilà. Et il y a cette nouvelle terrible, où je suis obligée de l'évoquer, mais peut-être que Céline vous rebondirait, sur moi qui m'a un peu traumatisée, sur cette comédienne de compagnie. Il y a un vieux monsieur qui emploie une jeune femme, et en fait, son travail, c'est d'être sur scène toute la journée, et elle doit faire une pièce de théâtre permanente, et elle ne sait jamais quand le vieux monsieur rentre pour la voir jouer, donc elle doit préparer, et ça dure des mois, enfin, on ne sait pas bien combien de temps dure son contrat, mais elle est là et elle est tout le temps en représentation. Et le théâtre comme divertissement poussé à l'extrême, moi, ça m'a vraiment glacée, cette nouvelle.
Sauf que dans cette pièce, moi, ce que j'ai adoré, c'est le lien avec... le monsieur est presque représenté par ses globes oculaires. C'est comme ça qu'elle présente le personnage. Et une fois encore, on retrouve la bizarrerie qui est quand même tellement caractéristique de cette autrice. C'est qu'il y a une rencontre, mais presque comme si on pouvait voir, nous, lectrices, les globes oculaires de ce monsieur qui... En arrive à être presque sur cette fameuse comédienne. Et c'est ça qui est assez génial à chaque fois, c'est que le fantastique finalement, c'est aussi une manière qu'elle a, comme si elle avait un microscope et que tout à coup, elle plongeait dans des micro-détails qu'elle révèle comme ça au grand jour. Ça peut donc être ces fameux globes oculaires, ces petits verres qui sortent de dessous les dents. Et puis vous parliez des autographes, Marie. L'histoire quand même de ces autographes, c'est qu'à la fin, quand cette dame qui a collectionné des autographes pendant toute sa vie, donc c'était quand même un petit peu le but de son existence, le jour où elle meurt, où on retrouve son corps n'a pas, on retrouve assez vite son corps, parce qu'évidemment elle vivait seule comme tous les personnages d'Ogawa, mais il y a une odeur épouvantable dans son appartement, et ce n'est pas son corps à elle, c'est en fait l'amas des autographes qui sont en putréfaction, comme un corps, comme s'ils étaient vivants. Et c'est là où on retrouve aussi le côté charnel.
D'Ogawa.
Et vivant, et donc lié à la mort, bien sûr.
Scènes endormies dans la paume de la main de Yoko Ogawa, traduit du japonais par Sophie Reffle chez Actes Sud.